Monde sans bâton. Roman, édition Pontoum, prologue.
Alors, les routes entremêlées, et l'une d'elles, une direction à prendre. Savoir, ne pas savoir laquelle. Michel nous recherchera. Faire du stop. Prendre le train. Oui, prendre le train avec l'argent volé. Ce qu'il en reste. Les quais seront sombres. Personne ne nous verra. Les rails seront d'acier. Aux aiguillages orientés pour nous. Alors, tout recommencera. Encore une fois. Ils se le disent, rébellion du regard, cette certitude qu'il est déjà trop loin, trop tard. Les dés sont là, jetés, sans âme à qui mentir. Les chiffres, bien droits et arrogants, mais qu'ils négligent avec défi. Je me sens bizarre, dit-elle. Moi aussi, dit-il. Et les bras se prennent pour des manteaux. Les emmitoufles, chaleur menteuse. Le train les entraîne. Le train les emmène. Kilométrage sans borne, aux distances effarées. Ses filets et le chahut des chalutiers et son chantier qui geint par ferraille entassée des quais jusqu'à la Minque. Il y avait une de ces odeurs, dira Fernande, et les jours passant, elle ne la sentira plus.
trois espaces, trois lieux organisent le roman. Chacun met à l'épreuve les personnages. Chaque lieu comme une caisse de résonance en eux. Le port, matin mort, les ténèbres. L'île, le paradis perdu. La ville castagne, lieu de tous les possibles, le labyrinthe. Le port, matin mort, la mer.
Fernande s'éloigne du port, vers la fin du village, où la côte se fait roche plus sauvage. Rochers aux formes apparentes, têtes noires chargées d'écumes, grignotées par les vagues. L'inquiétude la traverse. Elle descend sous la plage et marche sur le sable. Les grains en chatouillis et carestiels craquellent les coquilles sous ses orteils, dégagés des souliers. L'immensité. Des vagues. Face à la mer, elle ne peut rien. Sa puissance si grande empêche la sienne de s'exprimer.
Personnages autour de Benjamin et Fernande. Le patron, tenancier du bistrot L'Embarcadère, d'apparence débonnaire, mais truffé de petites cruautés. Babillard, colporteur des nouvelles du port, il s'attache à Fernande, ses oreilles qui font exister. Cette dépense de salive avec Fernande, personne ne l'avait écouté comme ça. Michel, l'ancien amant de Fernande, un tueur qu'elle a trahi. Vengeance, il les poursuit. S'il les rattrape, il les tuera. Henri Cadoucet, peintre, un homme qui s'est isolé, croyant que cela le ferait créer. C'était surestimé. Avoir assez en soi d'emblée, faut beaucoup d'orgueil pour renoncer au monde. Toujours le regard hanté de choses lointaines, il fera le portrait de Fernande. cette rencontre la révèle et lui donne le goût d'échapper à son destin.
Monsieur Cadoucet, foulard au col et sur son flanc croquis à la hâte dessinée, passe le seuil du bistrot L'Embarcadère. Courte barbe blonde et la chevelure d'argent, nuque dégagée, allée de riz en collier. Sa colonne vertébrale rigide et verticale et qui le fait tenir si droit. Main serrée du patron, un baise-main à Fernande. Henri lui lance amèrement. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pire qu'une tombe ici. On s'y enterre. Et puis on y vit à la manière des morts. Regarde, j'ai un œil crevé. Elle recule effrayée. C'est une farce. Attrape. Il lui lance son crayon. Voilà un œil de poche. La nuit, quand tu te perds, il est clair. Sur les affiches.
Henri ne te peindra pas, il fera juste l'annonce du spectacle.
Et l'affiche sortit par tout le port. Fernande dit vouloir aller dans l'île. Elle dit, allons dans l'île. Ils vont dans l'île. Et aviron au bras, et clapotis et clapota, ils abordent le rivage.
Espaces organisent le roman. Les lieux psychiques rencontrent les espaces géographiques. L'île, le paradis perdu. L'île, ce lieu d'harmonie, peu à peu, se transformera en espace de cauchemar au rythme du doute amoureux. Passage de la clairière, œil de lumière, à la sombre étendue d'arbres, comme une conscience embrouillée.
Une planète tombée du ciel au milieu d'eau, outrage des pierres, galets le long des côtes sommées. L'île, petite mais grande, circonférence qui met des heures pour accomplir le cercle, traversée plus rapide par les sentiers. Marcher longtemps. Benjamin voulait trouver l'endroit où se consomme l'instant sans l'assassin du lendemain. Les jambes exploratrices Il s'y enfonce. Pleine plane, puis gondolée, gravissent les monts, les yeux en escalade pour embrasser plus loin les paysages. Au centre de l'île, une forêt, ses craquements. Un serpent beige y mène sous ajoncs et broussailles. C'est lui qui décide d'y aller. Là, campanules, tiges, florifères, fleurs tubulées, tubercules gonflés de rosée, transpercent le sol, hérissements verts et colorés. Les abeilles tournoient autour des fleurs. Festin, ce putain de pollen orangé. Benjamin court. Puis à genoux, il cueille des fleurs, il les offre à Fernande, qui mord la chair, dévore la pulpe, leur robe défaite, elle les rejette, murmure encore. Le doigt sécateur lui offre les parfums. Paupières, les pétales, sur les cils, les pistils. Je suis aveugle, dit-elle, et elle le cherche des mains. Elle rit. Il l'a conduit. Elle rit. Cette sensation d'avoir quitté le monde. Ils sont seuls en ce lieu. Seuls, mais non pas prisonniers. Possibilité des coups de rame pour se ramener au port. Et puis ils sont deux. Cette sensation de l'être vraiment. Ils se rejoignent. Ils lui donnent du bonheur. Elle le prend, lui rend. Là, sa tête abandonnée, elle n'imagine possible l'arrêt de ce bonheur. S'enfuit. Frôlement des arbres, il la poursuit. L'ombre de ses bras en infilé. Caché derrière un arbre, s'arrête, repart, se cache, s'épile et souffle à bout de course. Rumeur des bouches. Je t'attraperai. Tu ne pourras pas, chante-t-elle. Il la rattrapera, orteil coléoptère. Elle accélère, ne trouve plus source de souffle. Accro. Et croque en branche, elle trébuche haletante. Il la capture, ses épaules à son ventre. Halte contre un tronc. Déliez-moi. Déliez-moi court sur les lèvres frissonnantes. Et elle vacille. Là, dit-elle, on pourrait rester un peu. Elle désignait une masure abandonnée. Un cabanon, dit-il. Oui, un cabanon. Et elle sourit.
Douze personnages autour de Benjamin et Fernande. Babert. Babert avec sa voix de rogomme. Toujours de sa poche aux lèvres une bouteille. Pêcheur, il prendra la tête des idées révolutionnaires du port. La lutte contre les gros bateaux internationaux qui s'arrogent le droit de vider la mer de ses poissons. Babert sera chargé à Castagne de mettre en réseau les gens de la ville et ceux des petits ports. Babert écrit des poèmes, très bêtes, qu'il lit parfois à Fernande. Martin, pêcheur, qui sauve Fernand de la noyade. Sa bouche chagrine s'ouvre dans un immense sourire sans dents.
T'as encore ma mine qui t'épouvante. Mais pince-moi donc si tu me prends pour un fantôme.
Il prend sa voix grinçante.
C'est moi, Martin, le trompe-la-mort. Toujours sur mon visage, on voit la terre dans la fatigue et le travail. Tu vas valser aux trous qui disent, mais non, je tiens bon et debout.
Zora. Serveuse au bistrot l'écume. Elle a le cœur mal famé et n'offre que des promesses de déception. Mais sa chair fredonne à Benjamin des airs jusque-là méconnus. La séduction comme une mise à l'écart d'un monde, le passage vers un autre, où Fernand est exclu. Merlan, propriétaire du bateau Le Molitor, homme au passé entaché d'histoires louches, il initie Benjamin à la bagarre et à ses pulsions criminelles.
Merlan frappa Benjamin en plein visage. Coup droit. À plat sur le plancher, Benjamin se relève du sang au visage. Un nouveau coup. Benjamin s'abaisse et coup de menton, il charge. Merlan atteint au ventre. Toute la salle rassemblée les encerclait. On disait de Merlan qu'il n'arrêtait une bagarre qu'à la mort de son ennemi. Son corps savait les ruses, les techniques animales. Il n'hésitait jamais à faire couler le sang. S'il n'avait pas été voyou, il n'aurait rien été. C'était sa seule façon d'exister. Et il ne comptait pas la lâcher. Vilaine prise, et coude dans l'estomac. Hurlement. Merlan puise dans les chairs horribles un hurlement bestial et inquiétant. Il hurle à crever les tympans. Merlan savait aussi les rites des cris. Comment leur sonorité venue des lointaines cavernes reprises par des guerriers horrifie et paralyse un adversaire. Ces quelques secondes d'effroi lui en donnent trois pour attaquer. Et coup de pied, au dos, au ventre, Benjamin retombe, plié en deux, puis à genoux.
Prêt à tous les crimes. Des cris, des
Les exclamations montent de la salle et le stimulent. Il est pris par le sang noir du crime et de la guerre. Fernand marche, petite route aux cailloux ensommeillés, qu'elle réveille à coups de pied. Du bord à la ville de Castagne, qu'une voiture passe, pense-t-elle, et j'irai avec elle. Il y a ces questions dans leur esprit habité des que faire, rester ou s'en aller. Cette barque squattée dans un silence tacite et acquiescement, combien de temps?
Trois espaces organisent le roman. Le passage de l'un à l'autre est toujours la tentative de changer d'espace psychique. La ville, Castagne, le labyrinthe.
Benjamin guette le pare-brise des voitures où accrocher leurs pouces. L'une vrombit, moteur, elle les dépasse. Une autre stop, les pneus caoutchouc brûlant freinent brutalement. Les mains d'une femme au volant. Redéclenche les turbines. Des rires dévalent dans le moteur. L'aiguille trotte sur le cadran. Arrache les arbres si vite qu'elle les replante en grande haie. Deux mains à plat sur le volant, cette femme a de la vitesse. Sentir sous elle l'éclipse du monde, les formes sorties de leur contour. Ne retrouve plus sa langue, accaparée par un mouvement qui refuse le dehors. Les bornes s'étalent en silence. Encore quelques centaines de mètres, peut-être un kilomètre, pour que la ville masse le paysage. Commerciaux, braquets de maison, tournant l'affiche, s'imposent les étages verticaux, hauts, armés de béton. Ces buildings grattent le ciel avec leurs toits comme de longs arbres tronçonnés. Au klaxon, ils entrent dans la ville. Les boutiques s'offrent, accouplées au néon, et qui clignotent pareil aussi d'une gourgandine à ses clients. Les portières claquent, la femme les dépose sur une place. Voilà. Merci. Au revoir. Un peuple de jupes et de souliers, costumes, cravates débraillés, les happes sur le trottoir. La foule, aux jambes pressées, pression des coudes, les pieds tombés dans les ringoles et remontés. Refaire des pardons, souvent des genoux. Pardon, madame, le centre, s'il vous plaît. Quel centre, ma petite, il n'y a pas de centre ici, que des centres commerciaux. Les visages se multiplient. On éteint des plus foncés opales. Très fins, épais, cheveux crépus, yeux multiformes, bridés, géants, et qui cherchent des reflets d'eux-mêmes dans des rapides passages. Et ce déshabillage, le sexe par les yeux, tenue tombée, soliloques des solitaires éveillent les oreilles des passants. Bonjour. C'est plaisir d'être en nombre, faut oublier son propre chiffre. Bonjour. Bonjour, le saura-t-il? En tout cas, les gens s'y préparent. Bonjour. Ils atteignent une place ornée de boutiques. Fernande s'attarde sur les vitrines. Sens bien ses traits. Reflets. Elle se cherche, elle se trouve. Dit Fernande, se tourne vers elle et la dévisage. Vitre, porte transparente, devanture, miroir, la reproduisent multipliée. Trop d'images de la tourne, aucun reflet ne la saisit. Il suffirait pourtant d'un regard. Ce regard, il voudrait que ce soit celui bleuté et clair.
Douze personnages autour de Benjamin et Fernande. Amandine, bourgeoise excentrique au décolleté toujours trop grand. Amie du peintre Henri, elle hébergera Fernande et Benjamin dans la ville de Castagne.
Attrapée au menton, Amandine souffle au visage de Benjamin. Ce que t'es croquignolet, toi. Pas de croquer tant t'as l'air bon. Jamais pensé à te faire ton portrait, Henri. Elle l'invite à se rasseoir. Ça lui appelle Fernande. Il m'a téléphoné. Bienvenue. Bienvenue. Et puis de son âge, combien? 50? 60 ans? Elle avait une bouche inquiétante comme un cri.
Gilbert, mari d'Amandine. La barbe épaisse, lunettes cerclées d'argent, les poings rongés par l'inquiétude, ses 50 ans sculptés aux yeux. L'homme dont cette femme était l'âme et qui cherche pour elle des formes stables. Toujours à la rassurer, à l'aimer, à l'admonester.
Des larmes. Pendant que claque la porte, celle de la chambre, puis de la rue. On voudrait rester en ville. Elle en a assez. Cette course, cette fuite. Pour partir où? Pourquoi? Il faudra bien un jour se décider. Ailleurs et partout. Ici, il me suffit de creuser. Non, ne dis rien, laisse-moi. Benjamin le sent, le souffle de sa voix. Il faut se taire, marcher, pas parler. Il marche. Sur des trottoirs où les panneaux publicitaires se dressent passé. Je vous le dis, la ville se fane. Mais non, un cœur bat quelque part. Ils le sonnent de leurs pas. Réseau de ruelles. Des galeries mènent à des porches, à d'autres galeries marchandes, puis souterraines. Boutiques, badauds, trottoirs étroits, l'entrelacement des rues cache le chemin par où aller. Une voiture freine, trop tard, écrasée. Le destin des horloges n'est plus temps, corps écrasé. La foule se presse par cercle compact. Le froid traverse les faces et les regards. Une jeune fille blonde gît au sol. Son corps plié est pris de tremblements. La mort au travail. Le malaise grandit à la coulée du sang. Bourdonnement des passants. Leurs yeux avides, épouvantés, la vie intensifiée par cette vision. On attend l'ambulance. L'attente est longue. La peur des lits est longue. C'est pas croyable ce retard-là. C'est la faute à l'État. L'autre jour dans ma rue. Elle est remue l'angoisse et la colère. Un visage. Fernande s'accroche à Benjamin. Un visage se détache de la foule. Blond, des paupières aux cheveux. Très avalé, barbouillé par des mèches trop jaunes. Ce visage dans la foule. Michel. La sirène retentit. La foule s'ouvre, traversée par des blouses blanches. Michel, il est en ville. On nous a vus. On n'est pas sûr. Mais elle inquiète. Sont bien ses traits. Benjamin se retourne. L'homme marche plus vite. Les jambes, coups de machette, pour parvenir à eux. Une seconde. La peur les paralyse, puis bousculade, ils cavalent à toutes jambes. La foule respecte et se redit. Elle n'est pas ça, la foule. Les gens en elle. Elle fait pied de nez, croche-pied, puis passer pour les freiner. Leurs mains se perdent, s'attrapent. Leurs jambes se demandent si elles tiendront le coup. Ils courent. Ils le savent par le dos. Traversée d'une avenue, tute, des klaxons, une voiture freine. D'autres accélèrent. Ils sont sur le trottoir. Michel se met. Était-ce Michel ? L'angoisse, un noir au fond de leurs yeux.
Et le livre est en vente.